réduire ses impôts en défiscalisant via l'investissement immobilier avec Cogedim.
Voilà, on se retrouve pour ce premier atelier de la matinale qui est consacré à la réduction d'impôts. Donc vous êtes toujours sur Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. On va parler maintenant de la défiscalisation via l'investissement immobilier. Et pour en parler, bien j'accueille Paul Lassalle.
Bonjour Jean-Philippe.
Vous êtes directeur commercial France de Cogedim. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Cogedim ?
Alors, je vais vous rappeler qui est Cogedim. Cogedim, c'est un acteur incontournable de l'immobilier français depuis 1969. Aujourd'hui, Cogedim, c'est le premier développeur immobilier de France. Il se développe sur de multiples facettes qui sont le bureau, le logement, bien entendu, le commerce, l'hôtellerie, la logistique et la résidence senior. La vision de Cogedim et surtout l'ambition, en fait, c'est de créer la ville de demain. Et pour ça, très simple, alors si je peux dire très simple, le socle, on va dire que c'est le produit. Voilà, Cogedim est très, 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 très important, le produit aujourd'hui chez nous, chez Cogedim. Le deuxième, c'est le client. Et le troisième, c'est le collaborateur.
D'accord. Alors, quand on parle de défiscalisation immobilière, on pense tout de suite au Pinel, oui. Qui était du nom de Sylvia Pinel, une ancienne ministre du Logement. Comme avant, il y avait eu le Duflot, en référence à Cécile Duflot, etc., etc. Tous les ministres, on en parlait justement ce matin, à peu près tous les ministres du Logement ont leur dispositif avec leur nom. Alors, on croit connaître le Pinel, oui. Mais Paul, comment fonctionne concrètement le Pinel, en sachant que c'est plus compliqué en fait qu'on pourrait le croire?
Alors, c'est un petit peu compliqué. Par contre, si on est bien accompagné, ça devient simple. On va essayer de l'expliquer simplement aujourd'hui. Déjà, il faut investir dans une zone géographique sélectionnée par l'État. Avant, on pouvait faire du Pinel un petit peu partout en France, et il est arrivé certaines choses qui n'ont pas été forcément cool pour certains investisseurs. Et on parlera de l'emplacement après, sûrement, où investir.
Donc en gros, ce sont des zones où il y a un déficit d'offres par rapport à la demande, les exactement. Zones dites tendues, c'est-à-dire qu'en fait, concrètement, les gens ont du mal à trouver des logements.
C'est exactement ça. On va résumer ça sur les grosses agglomérations françaises, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Paris, Nantes, Lille, etc. Donc l'État a défini des zones, on va parler de zones A, zone A bis, zone B1, qui sont les zones qui regroupent les zones les plus tendues en termes de locatifs. Donc, si on investit dans ces zones-là, du coup, en contrepartie, on va avoir une réduction d'impôt accordée par l'État. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une réduction d'impôt ? C'est une baisse du montant de l'impôt. On parle ni de déduction, ni de crédit d'impôt, mais bien une réduction. Vous payez, imaginons, 4 000 euros d'impôt, vous avez une réduction de 3 000 euros d'impôt, vous ne paierez donc que 1 000 euros à la fin.
D'accord, ce qui veut dire, ça peut être peut-être une apalissade de ce que je vais dire, mais c'est vrai, c'est que par rapport à un crédit d'impôt, on a intérêt à payer des impôts. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à un crédit d'impôt oui. où vous n'êtes pas imposable, vous allez quand même recevoir un chèque, alors qu'effectivement, pour la réduction d'impôt, il faut avoir un impôt à réduire.
Si on veut l'optimiser, il faut avoir un impôt à réduire, parce que si on prend l'exemple, vous payez 2 000 euros d'impôt et vous avez investi sur un Pinel qui vous fait économiser 3 000, les 1 000 euros de différence sont entre guillemets perdus. À la différence où la loi Célio, on pouvait récupérer pendant 6 ans derrière, aujourd'hui avec la loi Pinel, on ne peut pas le faire.
D'accord, donc dans des zones tendues et oui. dans du logement neuf, puisque bien sûr l'idée en fait c'est ça, hein, en fait, c'est de créer des logements là où il en manque, donc il faut absolument que ça soit du neuf.
Alors il faut absolument alors que ce soit du neuf, même s'il peut y avoir un dispositif de Normandie à côté, il faut que ce soit du neuf. Et pourquoi l'État a aussi créé ça? Pour renouveler le parc immobilier français. Pourquoi? Parce que très simplement, le parc est gourmand en énergie, donc il a mis cette loi-là adossée à de l'immobilier locatif neuf. Il y a d'autres raisons, bien entendu, à soutenir, comment dirais-je, le monde du bâtiment. Mais on va dire en résumé, l'écologie fait partie des plus grosses raisons. Qu'est-ce qui se passe, du coup, si on investit sur un bien immobilier neuf? Alors, on va prendre un exemple très simple. On investit sur un bien immobilier...
Excusez-moi, je vous coupe, mais si je puis me permettre, il y a d'autres critères quand même à remplir qui ne sont pas minces non plus.
Dites-moi lesquels.
Alors, on a parlé de la zone tendue, oui. Ça, on est bon. On a parlé du logement neuf, ça, on est bon. On a parlé du fait qu'il faut... Enfin, c'est là où vous ne l'avez pas dit,
dites-moi.
C'est quand même très, très important. Il faut que le locataire, ça soit sa résidence principale.
Bien sûr.
Il faut que le locataire n'excède pas un certain niveau de revenu. En gros, il faut des locataires modestes ou de la classe moyenne. Et puis ensuite, il y a un plafonnement des loyers aussi au mètre carré.
Tout à fait. Ça, ce sont les conditions.
Et ensuite, quand même, excusez-moi, Paul, mais là, je continue. C'est là où... C'est pour ça que... Attention au Pinal, il faut quand même cocher toutes les cases, remplir toutes les cases, oui, et le savoir. C'est qu'il faut aussi, pour avoir l'avantage fiscal, louer une certaine durée pendant une certaine durée. Voilà, non, mais c'est juste, voilà, pour que les choses soient claires, c'est clair que si vous voulez, par exemple, habiter votre logement locatif rapidement, bah, ne faites pas de Pinel, parce qu'il faut au minimum le louer 6 ans quand même.
Tout à fait. Alors, si on se reprend tous les points que vous avez cités et qui sont essentiels en termes de conditions pour avoir la carotte que j'allais commencer à citer, mais les conditions...
Excusez-moi, Paul, non, mais c'est juste raison. Pour dire qu'avant avant d'avoir la carotte, il y a plein de conditions...
Respecter.
Encore une fois, hein, c'est toujours pareil, vous n'avez un avantage qu'en contrepartie de choses à respecter. Voilà, donc peut-être qu'il faut d'abord expliquer ce qu'il faut respecter et après on parlera de l'avantage fiscal.
Tout à fait, plafonner les loyers, vous l'avez dit, en fonction de la zone géographique dans laquelle vous allez investir, vous aurez un plafond affiché par l'État. Très probablement, ce plafond sera soit autour du loyer de la ville, soit en général, il est à peu près décoté de 10 à 20%. Ce qui va du coup être un avantage pour le Pinel, puisque vous allez louer votre logement encore plus facilement. Pourquoi ? Parce que d'un, il sera neuf, avec les dernières normes de construction, d'isolation phonique, etc. Et de l'autre côté, bah, du coup, il sera un petit peu moins cher.
D'accord, mais on peut dire aussi qu'il sera un petit peu moins rentable, Paul.
Alors du coup, l'avantage Pinel, lui, du coup, qu'on citera un petit peu après, est quand même relativement important. Et de fait, il va gommer largement cette petite sous-cote du loyer. Puisque si on sous-cote le loyer de 20, 30 ou 40 euros, l'avantage Pinel, lui, sera de 100, 200 ou 300 euros. Donc ce sera largement compensé. Alors, si on cite les conditions, il y a aussi des achats qui ne doivent pas dépasser 300 000 euros. Ça veut dire qu'on peut faire des lois Pinel, plusieurs achats en loi Pinel. Par contre, chaque achat ne doit pas dépasser 300 000 euros.
Ou si vous le dépassez, en tout cas, l'enveloppe fiscale est plafonnée à 300 000 euros.
On n'optimise pas sa défiscalisation, tout à fait. Vous pouvez acheter un bien, imaginons, à 800 000 euros, le donner sur l'investissement Pinel. Mais la réalité, c'est que vous ne dépasserez pas les 300 000 euros. Et encore, il y a même un autre plafond qui est les 5 500 euros le mètre carré qu'on mettra un petit peu de côté. Les ressources du locataire, oui, je veux bien qu'on zoome dessus parce que vous l'avez dit, il faut que les ressources du locataire ne dépassent pas un certain seuil. Les ressources sont cependant assez élevées. Par exemple, en zone A, à bis, on va parler pour un célibataire de 38 000 euros de RFR, ce qu'on appelle revenu référence de...
C'est le revenu imposable.
Et ouais, et donc du coup, si on calcule ça, on transpose ça en brut, ça donne grosso modo du 45 000, 50 000 euros de revenu brut. Donc, on est quand même assez large, entre guillemets, pour pouvoir louer un petit peu à tout le monde. Si on respecte tous ces critères-là, on va avoir la fameuse carotte, du coup, qui attire pas mal. Et d'ailleurs, est-ce que ça doit être ça qui doit motiver l'investissement en Pinel ?
On en parlera.
On le verra peut-être après, voilà.
Avantage fiscal, donc, qui évolue en fonction de la durée de location ?
Exactement. Vous parliez tout à l'heure d'une durée minimum 6 ans. Voilà, on le prend par créneau, 6 ans minimum. Et si vous louez votre bien immobilier 6 ans, vous avez la possibilité d'avoir une carotte fiscale à hauteur de 12% de l'investissement. Donc si on fait un résumé, j'achète un bien immobilier qui vaut à peu près 100 000 euros, je prends un petit exemple, j'ai la possibilité de défiscaliser 2% par an pendant 6 ans, pour arriver à ces fameux 12%, et bien du coup avec mon investissement à 100 000 euros, j'aurai la possibilité de réduire mes impôts de 2 000 euros par an chaque année. À 6 ans, vous faites un petit topo, vous avez envie de le prolonger, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt sympa, vous prolongez à 9, toujours avec un coût de 2% par an jusqu'à la 9e année. Et si ça se passe toujours bien, vous pouvez prolonger à 12 ans. Mais là, avec une carotte qui baisse un petit peu, cet avantage fiscal va être alors de 1% les 3 dernières années.
D'accord.
Voilà, tout simplement.
D'accord. Très bien, parfait. Bon, ben là, ça y est, là, on est bon. Là,
ouais.
Là on a toutes les... Voilà.
On a toutes...
Non, c'était juste
bien
pour
sûr.
Pointer du fait, mais c'est encore un peu normal. Et il faut bien que les gens le comprennent, qu'il y a toujours une contrepartie. Je le répète, mais c'est vrai, il y a une contrepartie, toujours un avantage fiscal. C'est jamais un cadeau. En fait, il y a jamais... le fisc ne fait jamais de cadeau.
Gagnant-gagnant.
Et il faut du donnant-donnant. Donc, c'est toujours en contrepartie de quelque chose. Voilà. Et que, encore une fois, le Pinel a des règles très strictes et qu'il faut les respecter. Parce qu'autrement... on peut se faire rattraper par la patrouille.
Exactement. Et d'ailleurs, pour conclure dessus, le Pinel va changer. Le Pinel va encore durer jusqu'à l'année 2021-2022. Et au 1er janvier 2023, vous allez avoir des pourcentages. Donc tout à l'heure, je parlais de 2% de réduction d'impôt chaque année qui vont baisser, qui vont être plutôt de l'ordre de 1,5 pour être amené à 1,3. Donc le Pinel va être toujours intéressant, mais un peu moins les prochaines années.
D'accord. Maintenant, si vous voulez bien, on va parler du meublé. Quels sont les avantages fiscaux liés au meublé ?
Alors le meublé, c'est très en vogue en ce moment. Beaucoup de personnes en parlent. Alors, ça a été mis en lumière par le Airbnb, etc., puisque ça fonctionne à peu près sur le même système. Il y a deux types de meublés. Il y a déjà ce qu'on va appeler le meublé, le locatif meublé simple, et de l'autre côté, le locatif meublé géré. Alors, le système et l'avantage du meublé, c'est très simplement, vous avez la possibilité d'avoir un bien, vous le meublez avec une liste de meubles définie par l'État, et derrière, vous avez la possibilité d'amortir votre bien immobilier. Le système, c'est qu'on n'est pas en revenu foncier, on est en BIC, ce qu'on appelle bénéfices industriels et commerciaux. Et le principe, alors à expliquer, c'est un petit peu technique, mais si on devait se le résumer, grosso modo, avec un système d'amortissement, vous avez la possibilité de ne pas être imposé sur vos loyers pendant une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Donc les loyers que vous rentrez ne sont pas imposés. Donc si vous êtes un foyer fiscal avec une forte imposition, à l'occurrence sur des tranches marginales d'impôt à hauteur de 30, 41 ou 45%, de fait, la location meublée peut être...
Il y a un plafond.
Un plafond de...
Pour ce qui est des revenus issus des loyers, tous les loyers ne sont pas fiscalisés.
Alors, pendant une vingtaine d'années,
voilà.
Vous redevenez fiscalisé.
Il n'y a pas de plafond, je pensais qu'il y avait un plafond.
Après, le plafond, c'est par rapport si on veut le déclarer au réel,
d'accord,
ou si on veut le déclarer au microbique.
D'accord, ok. Et puis alors, en sachant que le meublé, c'est vrai que vous avez des baux de un an, alors ça peut être un avantage.
Oui.
Ça peut être aussi un inconvénient parce que du coup, ça augmente la vacance locative, enfin, le risque de vacances locatives.
Et ce qu'on peut se dire aussi, si on veut donner pour nos auditeurs le plus et le moins, ce qu'on se dise aussi, à partir du moment où vous louez avec des meubles, vous avez aussi potentiellement un peu plus de dégradation. Donc certes, la rentabilité très souvent est améliorée. On va chercher une rentabilité un peu plus punchy sur la location meublée. Par contre, de l'autre côté, ben, quand vous mettez des tables, des chaises, un lit, des couettes, etc., vous avez un peu plus de chances que ce soit un peu plus dégradé, on va dire. Donc il y a des questions à se poser pour investir en meublé ou pas.
D'accord.
Donc là, on était sur la location meublée. Mmh. Et de l'autre côté, vous allez avoir la location meublée gérée qui a les mêmes avantages, à savoir une non-fiscalité des loyers pendant un certain nombre d'années, mais sur lequel on va rajouter deux de plus. Le meublé géré, c'est quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on fait appel à un gestionnaire pour gérer son bien immobilier, un gestionnaire professionnel. Le fait de faire appel à ce gestionnaire, il va proposer trois services. En général, c'est ce qu'on... Il y a le petit déjeuner, l'accueil, la blanchisserie, le nettoyage. Et à partir du fait où il propose trois services, vous avez la possibilité, en fait, tout simplement, de récupérer la TVA. Même si vous êtes un particulier, pas forcément une société. Donc, de fait, vous avez une décote du prix de 20%. Ça, ce qui est un avantage, on va dire, assez indéniable. Et l'autre avantage, eh bien, le fait d'avoir pris ce gestionnaire professionnel, vous avez ce qu'on appelle des loyers garantis. Donc des loyers garantis, ça veut dire des loyers qui tombent tous les mois ou tous les trimestres en fonction du gestionnaire.
S'il y en a à payer le loyer, c'est le gestionnaire,
c'est le gestionnaire
qui assure en fait le loyer.
Qui absorbe ce différentiel.
D'accord.
Donc c'est un placement qui est très en vogue aussi en ce moment. Pourquoi ? Parce que du coup, ça veut dire qu'on se détache complètement de cet investissement, on regarde sa rentabilité et on ne s'en occupe plus. On a un professionnel qui gère le bien pour vous et en plus qui vous paie quoi qu'il arrive.
D'accord, donc c'est les résidences étudiantes, les résidences seniors.
Exactement.
Combien est-ce que ça coûte ? Parce que gestionnaire, bien sûr, il ne fait pas ça pour vos beaux yeux. Donc j'imagine que tout ceci, Paul, a un coût.
Alors, c'est un coût. Alors déjà, sur le coût d'achat, souvent c'est super intéressant d'avoir ce type d'investissement. Pourquoi ? Parce que quand vous avez cité les résidences étudiantes, une résidence étudiante, on a tous été étudiants, c'est une chambre qui fait 20-22 mètres carrés, donc des petites surfaces. De fait, des petits prix. Ça veut dire qu'on va avoir des prix assez attractifs, assez petits, donc aux alentours des 100 000 euros, vous pouvez acheter un logement étudiant. Après, de l'autre côté, vous parliez de l'autre avantage. Ben, le gestionnaire, quand il va vous assurer des loyers garantis, donc vous savez ce que vous allez toucher. Imaginons, vous investissez à hauteur de 100 000 euros, vous avez 300 euros qui tombent tous les mois. Sauf que le gestionnaire ne louera pas votre bien 300 euros, il le louera 400 ou 450.
Et donc c'est le différentiel, en fait, c'est ça qu'il met dans sa poche.
C'est ça, c'est du gagnant-gagnant. Il entretient une partie de la résidence, il fait vivre ses services, il fait vivre souvent un concierge sur place pour que son outil de travail soit parfait. En contrepartie, par contre, du coup, il vous verse un peu moins que le loyer.
Qu'est-ce que le déficit foncier ?
Alors, le déficit foncier, aujourd'hui, représente ce que j'ai dit, mais le déficit foncier, c'est plutôt porté sur des logements, on va dire, plutôt anciens, avec des travaux. Alors, le déficit foncier, c'est quand même assez intéressant, puisque c'est un dispositif qui va être ciblé sur un certain type de personnes, à savoir des gens qui ont souvent des biens immobiliers, et leurs revenus fonciers, donc là on parle de revenus fonciers, sont positifs. Ça veut dire quand on fait la balance du plus et du moins, on doit déclarer à l'État les revenus. Souvent du coup, imposés en fonction de sa tranche marginale d'impôt et de la CSG-CRDS. Donc en l'occurrence, on vient très rapidement à une imposition à 50%. Le fait de faire du déficit foncier, ça veut dire que comme tout à l'heure avec le système d'amortissement, on faisait baisser ses charges, ben le déficit foncier, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'on va baisser les revenus fonciers pour les ramener à zéro, voire même dans certains cas, les ramener jusqu'à en négatif jusqu'à hauteur de 10 700 euros qui vont être impactés sur vos revenus de salaire.
Donc ça, c'est des travaux, c'est parce qu'on a...
Exactement.
Voilà, c'est parce qu'on a mis en place des travaux. Alors, bien sûr, il y a des boucles. Alors, c'est un petit peu compliqué, hein, parce que ce n'est pas n'importe quel travaux. Il y a des plafonds, etc., etc. Donc, il faut bien se renseigner. Mais c'est vrai que, par exemple, ça peut être intelligent pour justement la transition écologique. Vous vous dites que, de toute façon, vous le louerez encore mieux s'il est bien noté au niveau de la consommation d'énergie, par exemple.
Vous allez avoir aussi le locataire que vous méritez. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous mettez à disposition une passoire énergétique, le logement n'est pas top, le locataire ne va pas forcément sortir bien, il va y avoir du turnover, etc. Donc le dispositif, souvent, bien sûr, sur les biens immobiliers anciens, a le vent en poupe aussi, mais dans des conditions où souvent il faut avoir des revenus fonciers positifs, donc déjà des appartements. Voilà ce que je préconise.
D'accord. Est-ce que la défiscalisation doit être l'objectif premier d'un investissement immobilier ?
Non, je pense que la défis... Alors ça c'est, ce n'est que mon avis, qu'on soit clair. Mais la défis ne doit pas être la carotte. J'ai cité carotte, mais ça doit faire partie d'un contexte global. On achète de l'immobilier. L'important, c'est l'emplacement. Donc du coup, si la défis ne faisait partie que de la carotte, on vous ferait investir au fin fond de la France, sans citer de nom. Mais du coup, oui, les chiffres seraient très beaux. Mais au final, est-ce que réellement vous toucherez ces chiffres à la revente ou dans le futur, etc. Non. D'abord, on achète un bien immobilier, on se projette sans forcément trop s'y projeter non plus, il faut faire attention et pas mettre trop d'affectifs. Dès qu'on a choisi le bien, on regarde combien celui-ci, bien sûr, peut nous amener en avantage fiscal et combien celui-ci va également nous coûter, puisque le locataire, une opération blanche n'existant pas aujourd'hui, hein, le locataire, à un moment donné, va compenser, mais à hauteur d'un certain montant. Quand on a l'équation du bien immobilier, de son effort financier et du gain fiscal qu'on va gagner, eh bien oui, dans ce cas-là, on a une vision plus globale sur l'investissement, Pinel. Mais on ne doit pas être, en tout cas, drivé uniquement par cette carotte.
D'accord.
Sinon, c'est
d'accord. Et donc, il faut respecter les règles de l'immobilier. Effectivement, on en a parlé. Effectivement, l'emplacement est primordial. Donc, ça l'est également pour un investissement Pinel.
Vous avez tout à fait raison. L'emplacement, le Pinel, en fait, c'est simplement un dispositif qu'on utilise. Mmh. On achète un bien immobilier. Donc, l'emplacement, comme vous le citiez.
Qu'est-ce que vous pensez de... Je pense que beaucoup d'internautes ont connu ça, des coups de fil de plateformes qui vendent du Pinel au téléphone. C'est possible, ça, c'est souhaitable, c'est...
Si vous êtes...
Est-ce que c'est forcément des arnaques?
Alors, en fait, je ne sais pas et je ne veux pas juger, mais si vous êtes un professionnel aguerri, que vous n'avez pas forcément besoin de conseils, oui, vous pouvez peut-être aller regarder ce qui se cache derrière. Si vous êtes sur votre premier, votre deuxième, votre troisième investissement, je vous conseille de voir un professionnel qui va vous accompagner, qui va vous faire ce qu'on appelle un bilan patrimonial et vous expliquer, voilà, s'il vous faut du déficit foncier, s'il vous faut une loi Pinel ou s'il vous faut un investissement en meublé. Voilà.
Ok, parfait, très bien. Ben, merci Paul. On va passer maintenant... aux questions des internautes.
Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.
Alors, première question, Paul. Alors, donc, c'est normal, il y a beaucoup de questions sur le Pinel, mais c'est un peu logique, c'est le dispositif le plus connu. Peut-on loger ses enfants dans un logement Pinel ?
Alors oui, c'est possible aujourd'hui, avec le dispositif Pinel, de louer aux ascendants et aux descendants. Ça veut dire qu'on peut louer à ses enfants ou à ses parents.
Ce qui n'était pas le cas au début.
Exactement.
Hein, c'est ça, il y a eu une évolution.
Il y a eu une évolution. Avant, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, ça l'est.
D'où la question. Je pense qu'en fait, c'est pour ça, en fait. Du coup, les gens, ils sont un petit peu perdus.
Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut aussi donner les avantages et les inconvénients. Et donc, du coup, aujourd'hui, on parle assez librement pour donner l'avantage, mais aussi donner l'inconvénient. La personne à qui vous allez devoir louer ne devra pas apparaître sur votre revenu fiscal, sur votre avis d'impôt. Donc du coup, si vous louez à vos parents, facile, ils n'y sont pas depuis un petit moment. Par contre, si vous louez à vos enfants, vous pouvez, mais il faut sortir votre enfant de votre avis d'imposition. Et dans ce cas-là, si vous le sortez, vous perdez soit une demi-part, soit une part. Donc au final, est-ce que la transaction est rentable ? Ça se calcule.
Mais surtout, moi, je pensais que quand on louait dans le cadre du Pinel à ses ascendants ou à ses descendants, on ne pouvait pas percevoir de loyer, en revanche.
Ils sont obligés de vous payer un loyer.
On peut demander, mais on n'a pas l'avantage fiscal. En gros, c'est un peu ça.
Alors, du coup, si vous louez à vos enfants, ils sont obligés, entre guillemets, ou à vos parents, on va faire le truc simple. Si vous louez à vos parents, ils vous payent, les revenus qu'ils vous payent, vous devez les déclarer, vous êtes imposé dessus. Par contre, du coup, vous pouvez leur louer parce qu'ils n'apparaissent pas sur votre avis d'imposition. D'accord. Mais il doit y avoir une transaction, on ne peut pas louer gratuitement un bien.
Ok. Quelles sont les règles pour réaliser un bon Pinel ? Alors on a commencé à en parler, mais je pense que c'est important de les lister.
Alors, le bon Pinel, déjà, il faut le faire vite avant 2023, parce que 2023 va être un peu moins bon, qu'on se le dise. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, l'emplacement est primordial, l'effort d'épargne. Un bon investissement Pinel, on en a discuté, c'est un investissement qui nous rend aussi heureux. Il ne faut pas qu'il nous stresse. À partir du moment où il nous rend heureux, ça fait déjà un bon invest. Et cet investissement doit se faire en fonction de son ressenti, de sa capacité d'épargne. Est-ce que je suis capable de mettre 100 euros, abonder 100 euros, 200 euros tous les mois pour que cet investissement tourne ? Donc, il faut se faire accompagner d'un professionnel et il faut avoir la vision globale de l'effort financier, du bien immobilier et de l'avantage fiscal. Voilà le triptyque.
D'accord, ok. Quels sont les principaux avantages et inconvénients d'un investissement dans un immeuble classé monument historique ?
Alors là, on part sur une partie...
C'est complètement autre chose.
C'est complètement autre chose qui touche moins ce que j'ai dit, mais qui va toucher un de ses cousins, puisque Histoire et Patrimoine, une société qui fait ça chez nous. En fait, ça, on va être sur une niche de personnes, qu'on se le dise. Ça veut dire qu'il faut payer un peu plus de 20 000 euros d'impôts chaque année, voire même 30 000. Pourquoi ? Parce que vous avez la possibilité de défiscaliser, hors niche fiscale d'ailleurs, ce qui peut être assez intéressant.
Donc là, on n'est pas dans les 10 000 euros de niche fiscale à ne pas dépasser, qui sont plafonnés.
Là, on peut aller au-dessus. Par contre, vous avez la possibilité de défiscaliser entre 22 et 30% des travaux sur un plafond de 400 000 euros sur 4 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, vous allez pouvoir envoyer énormément de défiscalisation sur une courte période, donc les 4 fameuses années. Par contre, en contrepartie, pour redonner aussi les contreparties, il faut garder ce bien immobilier de 9 ans. Ça, en général, voilà, pour résumer, il faut avoir beaucoup d'impôts, en payer beaucoup, et aimer la belle pierre, puisque souvent, on parle de monuments historiques ou de Malraux, sur ce type d'investissement, ça veut dire qu'on va défiscaliser sur des biens qui ont une histoire, une connotation, souvent qui sont en hypercentre de ville ou dans des châteaux, ou voilà.
D'accord, donc en fait, le bien n'a pas besoin forcément d'être classé, c'est le périmètre, en fait. Il faut qu'il soit au moins dans un périmètre
défini,
classé. Ce qui veut dire aussi, il faut quand même le dire, que souvent, en fait, les travaux doivent être validés par les...
Il ne faut pas le faire soi-même. Il faut le faire faire par des professionnels. Et en l'occurrence, on prend des sociétés. Il y a les Bâtiments de France qui sont...
C'est ça.
Les ABF qui sont derrière tout ça, par exemple, pour la plupart.
Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il faut que tout soit validé par les Bâtiments de France. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut généralement passer par des artisans d'art, souvent. Donc tout ceci, effectivement, a un coût. D'accord.
Tout à fait.
Très bien, parfait. Avec un Pinel, faut-il obligatoirement passer par un mandataire de gestion immobilière ? En cas de litige avec celui-ci, vers qui peut-on se tourner ?
Alors, pour gérer le bien ?
Alors,
je ne sais pas.
En fait, est-ce que... Si, en fait, je pense que ce que l'internaute veut dire, c'est est-ce qu'on peut... est-ce que pour avoir un Pinel, il faut forcément avoir une délégation ? Ou est-ce qu'on peut le gérer directement soi-même ?
On peut le gérer tout seul, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui. Donc si vous vous sentez, si vous avez la loi Pinel, l'investissement Pinel qui est dans votre ville, pas très très loin de chez vous, vous pouvez le gérer. Alors c'est du temps, attention qu'on se le dise, même si c'est un bâtiment qui est neuf, où il n'y a pas beaucoup de travaux, de choses à prévoir, le locataire est une nouvelle personne dans son écosystème, donc il peut vous appeler de temps en temps quand même. Donc oui, vous pouvez le gérer vous-même, après il faut faire appel à un professionnel selon moi, surtout que tout ce qui est coût et frais lié à cet investissement va passer en déduction des revenus fonciers. Donc ce que vous payez d'un côté, vous en récupérez une grande partie de l'autre, et surtout vous dormez sur vos deux oreilles. Donc oui, je considère qu'il vaut mieux passer par un gestionnaire, sauf si vous voulez le faire vous-même.
D'accord. Et en fait, la deuxième partie de la question, c'était en cas de litige, donc avec ce gestionnaire, dans le cas où on ait choisi la délégation,
oui.
Eh bien, en cas de litige, vers qui peut-on se tourner pour régler ce litige ?
La médiation, dans un premier temps, vous pouvez appeler la DIL, qui a des avocats qui sont là pour faire...
Expliquez ce que c'est la DIL.
La DIL, c'est une société qui est à disposition de tout le monde. Dans chaque ville, il y en a. Et vous pouvez aller les voir, les consulter gratuitement, et vous êtes dans la médiation avec ce genre de conflit, avant de passer à l'étape supérieure, qui peut être l'étape... on va dire juridique.
D'accord, donc en fait, dans un premier temps, on essaie que les choses s'arrangent entre les parties avant que ça tombe dans un procès. Ok, d'accord, très bien, parfait. C'est vrai qu'il y en a un... Il y a un internaute qui me demande ce qu'est le Sancy-Bouvard.
Alors, le Sancy-Bouvard, c'est... Tout à l'heure, on parlait de l'investissement meublé. Mmh. On parlait de l'investissement meublé géré. Eh bien, le Sensibouvard, c'est l'investissement meublé géré. Alors, il y a deux options. Soit l'amortissement, que j'ai décrit un petit peu tout à l'heure, soit la deuxième option, c'est l'option Sensibouvard. Vous avez la possibilité de défiscaliser. Donc là, comme le principe du Pinel, de défiscaliser un certain pourcentage de l'investissement, à hauteur 11%, sur 9 ans. Pourquoi j'en ai pas parlé tout à l'heure? Très simplement parce que du coup, si on veut vraiment défiscaliser, vous avez la possibilité de le faire au travers de la loi Pinel. Comme elle offre aujourd'hui pour la même durée plus de réduction d'impôts, les gens qui veulent défiscaliser en fait se tournent plus facilement sur elle que sur la loi Sensibouvard. Mais en effet, on peut quand même défiscaliser avec la location meublée non professionnelle gérée Sensibouvard.
Mais il y a encore des projets Sensibouvard qui sortent de terre, j'allais dire
Il existe aujourd'hui des locations étudiantes qui sortent de terre tous les jours, donc on peut adosser ça à la Sensibouvard. Si on veut, tout à
d'accord.
Fait.
Quelle est la différence entre le meublé et le LMNP? En fait, c'est la même chose, non?
C'est la même chose.
Ah, c'est ça?
Location meublée non professionnelle. Voilà, le meublé, il peut être fait de manière professionnelle ou non professionnelle. Il ne faut pas dépasser un certain seuil. Donc, je pense que la plupart des auditeurs qui nous écoutent, on va être sur location meublée non professionnelle. Même chose, c'est du BIC, bénéfices industriels et commerciaux, qui ne sont pas les revenus fonciers sur des appartements loués nus.
D'accord, parfait, très bien. Ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'espère qu'elles ont contenté nos amis internautes. Donc, chers internautes, restez. Il y a un petit intermède d'un petit quart d'heure. Vous allez voir plein de vidéos aussi passionnantes les unes que les autres. Et on va avoir un autre atelier. Alors, cette fois-ci, on va parler de la défiscalisation, mais via l'épargne, via des fonds, justement, qui sont dédiés à cette défiscalisation. À tout à l'heure.
Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.